Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manilakidza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 17h30, temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du mardi 10 octobre 2017. D'abord le sommaire. Rebondissement dans la présidentielle du 26 octobre au Kenya. Raila Odinga se retire, laissant le champ libre à Uhuru Kenyatta. Au Liberia, le successeur de la présidente Ellen Johnson Sirleaf et les membres de la Chambre des représentants sont élus aujourd'hui. La Catalogne, à l'heure de vérité, choisir ou ne pas choisir l'indépendance, le président des indépendantistes s'exprime en ce moment devant le Parlement catalan. Les incendies continuent de ravager la Californie et ont déjà fait 10 morts dans les régions viticoles très touristiques au nord de San Francisco. Retrouvez Nicolas Pineau pour votre page d'espoir et Jacques Aristide pour l'actualité économique juste après le journal. Je vous le disais tout à l'heure, les Libériens ont voté aujourd'hui pour désigner un nouveau président, successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente en Afrique. Les électeurs doivent départager 20 candidats en lice, dont l'ancienne star du football Jojo Weah. Pour savoir l'ambiance du déroulement du vote, Idriss Fall a joint à Moronvia un journaliste de la radio onusienne, Jacob Joël.
La population est vraiment excitée. Tout le monde comprend que le pays, de plusieurs années de guerre, a eu d'abord un président démocratiquement élu. Ce passage de ce président à un autre, c'est un exercice que beaucoup de Libériens respectent depuis 6 heures ce matin. Il y a d'autres qui étaient d'ailleurs même dans des lieux de vote avant cette heure-là. Moi, j'y étais arrivé à 6 heures pour observer quelques centres de vote. Ça va, ça se déroule paisiblement, ça se comprend. Bien voit que ces concentrations entre plusieurs partis politiques, nous en avons 20 pour faire ce choix. Je pense que l'éducation sur cette élection a été sûre et les gens, depuis ce matin, continuent. Les lignes, les queues sont encore très longues. Surtout à Painesville, là où je suis arrivé peu après 15 heures cet après-midi.
Joël Jacob, journaliste de la radio onusienne à Moronvia, qui nous parlait de l'ambiance du déroulement du vote au Liberia. L'opposition togolaise envisage une nouvelle marche le 18 octobre pour exiger une réforme constitutionnelle. Le gouvernement compte organiser un référendum pour faire adopter une réforme constitutionnelle visant à notamment à limiter à 2 mandats présidentiels. Mais l'opposition dénonce ce projet de loi. Il n'est pas rétroactif et remet les compteurs à 0 pour permettre de facto à M. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de briguer un 4e, voire un 5e mandat. Coup de théâtre au Kenya, à quelques jours de la présidentielle du 26 octobre, l'opposant Raila Odinga s'est retiré de ce scrutin. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Dans une conférence de presse à Nairobi, Raila Odinga, leader de la coalition NASA, a affirmé qu'il renonçait à se présenter à la présidentielle, et ce, dans l'intérêt du peuple kényan.
This statement is the National Superalliance Coalition statement on the withdrawal of the candidature.
Cette déclaration marque le retrait de la candidature de Raila Amolo Odinga.
Une décision surprenante car la Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection de M. Kenyatta à la demande de l'opposition qui a toujours conditionné sa participation au nouveau scrutin du 26 octobre à une réforme en profondeur de la commission électorale. Craignant que cette élection soit pire que la précédente, M. Odinga estime que le scrutin doit être purement et simplement annulé.
Au Kenya, toujours, 2 employés d'une université ont été tués, 2 policiers et leur chauffeur blessés. Des inconnus armés ont attaqué leur véhicule à proximité de Diani, dans le sud-est sur l'océan Indien. Les islamistes Shabab figurent parmi les suspects, mais la police n'écarte pas la piste du banditisme. Le vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a accueilli avec placidité son éviction du gouvernement comme ministre de la Justice. Considéré être l'un des successeurs potentiels de Robert Mugabe, il a estimé que le remaniement relevait du seul plaisir du chef de l'État. Human Rights Watch a accusé l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement. Cette ONG affirme avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement et pour une majorité d'entre elles, victimes d'actes de torture, bastonnades, décharges électriques, simulacres d'exécution dans les centres de détention de l'armée rwandaise en 2010 et 2016. Nous y reviendrons dans la seconde partie magazine. Au Nigeria, les autorités sanitaires ont tenté de rassurer les 180 millions d'habitants des dizaines de cas suspects de variole du singe signalés dans cet État ont provoqué la panique. Lagos, la plus grande ville d'Afrique avec ses 20 millions d'habitants, est également touchée. Pour l'instant, aucune personne présentant les symptômes de variole du singe n'est décédée au Nigeria. Au Madagascar, le président Henri Rajaonarimampianina a appelé sa population au calme face à l'épidémie de peste. Il a assuré que les autorités avaient les armes nécessaires pour gagner la guerre contre la maladie qui a déjà causé 45 morts dans le pays. Le ministère de la Santé a déjà documenté plus de 387 cas de peste sur le territoire de la Grande Île. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a promis de régler le problème des groupes d'autodéfense qui ont récemment tué 7 personnes soupçonnées d'avoir bu ou tenté de boire du sang humain lors de cérémonies de magie noire. En Égypte, un tribunal du Caire a condamné 8 personnes à la peine de mort pour l'attaque d'un commissariat au sud de la capitale à l'été 2013. Parmi les autres accusés, 50 ont décopé d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, tandis que 10 ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison. Le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte fermement tous les Libyens à travailler ensemble dans un processus politique inclusif. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que les missions de maintien de la paix des Nations unies seront totalement financées malgré une coupe budgétaire annoncée il y a quelques mois.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Espagne, le président séparatiste et catalan Carl Puigdemont s'exprime en ce moment devant le Parlement régional qui est quadrillé pour l'occasion. Les Espagnols sont nombreux à retenir leur souffle dans la, alors qu'ils attendaient justement ce discours qui a commencé tardivement et qui Abadou a joint à Barcelone, Pape Moussa, un catalan d'origine sénégalaise, qui décrit justement l'ambiance avant ce discours.
Une incertitude parce que, étant prévu d'entendre le discours depuis 18 heures, on voit qu'au sein de certains groupes parlementaires, il y a eu des malentendus dont ils ne sont pas tombés d'accord sur peut-être quelques points ou bien comment prononcer le discours. Alors que la majorité des gens convoqués ici à la rue auprès du Parlement ici, donc au jardin de la Ciudadelle, ne s'attendent rien d'autre que la prononciation de l'indépendance de la Catalogne. Rien d'autre que ça. C'est très très compliqué parce que les gens, pour certains, ils disent que juste 2 millions et demi de personnes ne peuvent pas décider une indépendance d'un pays qui fait 7 millions d'habitants avec 5 millions d'électeurs. Donc, c'est un problème. C'est un problème aussi parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui ne vont pas reconnaître la Catalogne directement comme pays européen.
Pape Moussa, un catalan d'origine sénégalaise, nous aurons les détails tout à l'heure sur la décision prise par le président indépendantiste. Des incendies continuent de ravager le nord de la Californie dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, faisant 11 morts, détruisant des milliers d'habitations et forçant plus de 20 000 personnes à fuir. Les précisions de John Lyndon.
Selon les pompiers de Californie, environ 32 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche dans cette région touristique du nord-ouest des États-Unis. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. En moins de 24 heures, plus de 18 feux ont détruit plus de 2 000 habitations et menacent des milliers d'autres, selon Jerry Brown, gouverneur de la Californie, dans une lettre adressée au président Donald Trump. Il lui a demandé d'émettre une déclaration de catastrophe naturelle pour débloquer des aides fédérales vu la gravité et l'ampleur des incendies. Des ordres d'évacuation ont été diffusés et les incendies ont par ailleurs entraîné la fermeture d'autoroutes et de routes locales. L'ouest des États-Unis a déjà subi début septembre des feux de brousse et des incendies qui avaient entraîné des milliers d'évacuations. La région est particulièrement vulnérable à cette époque de l'année où les pluies sont rares et les vents violents.
L'Union européenne a adopté une série de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Ces sanctions interdisent aux entreprises européennes de vendre des liquides de gaz naturel en Corée du Nord et d'importer des textiles de ce pays. Des pourparlers entre le mouvement Hamas et son rival palestinien du Fatah ont commencé aujourd'hui au Caire pour concrétiser une réconciliation. Les discussions à huis clos sont prévues pour durer plusieurs heures. Les pourparlers porteront sur les détails concrets du rapprochement entre les deux rivaux après une décennie de dissensions dévastatrices. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique avec Jacques Aristide.
La reprise économique se confirme en Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 2,6% en 2017 après un taux d'1,4% l'an dernier à cause du bas niveau des cours des matières premières. Le FMI estime que le produit intérieur brut des 45 pays de la région devrait continuer à progresser l'année prochaine à hauteur de 3,4%, mais l'institution ne manque pas de souligner la fragilité récurrente des deux moteurs économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria a été affecté par la baisse des prix du pétrole, alors que l'Afrique du Sud est confrontée à l'incertitude politique qui pèse sur la confiance des consommateurs et des investisseurs. Le groupe nucléaire français Areva procédera à des licenciements l'an prochain dans une de ses filiales au Niger. À la sommaire dans le nord nigérien, plusieurs centaines de salariés seront concernés. Areva évoque les prix très bas de l'uranium à $20 la livre et indique que la sommaire doit adapter son organisation industrielle et ajuster ses effectifs. De telles mesures incontournables, d'après le groupe, permettront à la sommaire d'éviter la faillite. Areva exploite l'uranium depuis près de 50 ans dans le nord du Niger. La Banque centrale d'Éthiopie a dévalué la monnaie du pays de 15% pour stimuler les exportations qui ont pris du retard. La banque a également augmenté son taux directeur de 5 à 7%.
Et nous passons directement au sport avec Nicolas Pinon. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec cette fin de la belle histoire syrienne dans la course à la qualification.
L'Australie a mis fin au rêve du Mondial 2018 de la Syrie, pays ravagé, vous le savez, par la guerre. Un score de 2-1 obtenu en prolongation lors de ce pré-barrage retour de la zone Asie. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, 2-1. Et c'est le vétéran australien Tim Cahill, 37 ans, qui a inscrit le but meurtrier à la 109e minute. Coup de chapeau quand même aux Syriens.
Il y a aussi des rencontres prévues ce soir en Europe.
Le Portugal compte sur son homme providentiel Cristiano Ronaldo pour enlever au finish un billet direct pour le Mondial 2018 en battant la Suisse à Lisbonne. Coup d'envoi 18h45, temps universel. On rappelle qu'hier, la Serbie et l'Islande ont assuré leur qualification. Les Serbes ont battu la Géorgie 1-0 et surtout l'Islande qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une Coupe du Monde grâce à sa victoire sur le Kosovo. C'était à Reykjavik, 2-0.
Et un autre verdict va aussi tomber en Amérique latine.
Le Brésil a son billet pour le Mondial, mais pas l'Argentine, finaliste de l'édition 2014. La bande à Lionel Messi est très mal embarquée, même pas en position de barragiste. Et le dernier match, la nuit prochaine, en Équateur, à Quito, 2800 mètres d'altitude. On rappelle que dans la zone AMSUD, l'Uruguay, le Chili et la Colombie sont bien partis. Le Pérou est pour l'heure barragiste.
Et on va terminer avec ce bilan mitigé pour l'Afrique du football à la Coupe du Monde de moins de 17 ans en Inde.
Après sa défaite face à l'Iran lors du premier match, la Guinée a fait match nul ce matin en Inde, de partout face au Costa Rica. Fange Touma et Soumé, les buteurs pour le Séli National. Le Niger a lourdement chuté contre l'Espagne, défaite 4-0 pour le MENA. Et puis le Mali jouera sa qualification jeudi contre la Nouvelle-Zélande et le Ghana face à l'Inde.
C'était l'espoir de Nicolas Pinon. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza, pour aborder la seconde partie de cette édition. Et nous abordons les dossiers du jour. L'heure est au bilan pour Ellen Johnson Sirleaf, alors que les Libériens choisissaient aujourd'hui un nouveau président. Élue en 2006, Madame Sirleaf est entrée dans l'histoire comme la première femme chef d'État en Afrique. Devenue prix Nobel de la paix en 2011, elle jouit d'une glorieuse réputation sur l'échiquier international. Au Libéria toutefois, certains se disent déçus de ses 12 années au pouvoir. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Ibrahima Kane, directeur du plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine.
On aurait pu penser que, étant la première femme africaine à diriger un pays, elle aurait apporté une certaine touche. Mais pendant les 12 années de sa présidence, on a vu peut-être une présidente de la République qui était beaucoup plus à la recherche de moyens de gérer le quotidien que de trouver vraiment des solutions aux problèmes des gens. Et cela déçoit quelque peu parce que elle avait le pédigré pour le job. Elle est une ancienne de la Banque mondiale. Elle connaissait les problèmes économiques du continent avant même de prendre les rênes du pays. Elle a quand même aidé à gérer la transition de la guerre civile que le pays avait connue à une société beaucoup plus évoluée, à la recherche vraiment d'une dynamique de l'état de droit et autres.
D'après vous, aurait-elle pu mieux faire en matière de lutte contre la corruption, par exemple?
Ah oui, énormément. Et la quasi-totalité des critiques qui étaient formulées à l'encontre de son régime, c'était le fait qu'elle a laissé faire, que la corruption est devenue endémique dans le pays et qu'elle n'a même pas pu mettre en place les règles strictes, les règles qui auraient vraiment permis à l'État de gérer ce genre de situation. Et ça, c'est quand même surprenant de la part de quelqu'un qui était venu pour remettre le pays sur les rails. Ça, c'est vraiment décevant.
Mais contrairement à d'autres dirigeants en Afrique, elle n'aura pas voulu modifier la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir. Faut-il quand même mettre à cela à son crédit?
Je ne sais pas quoi dire parce que elle l'aurait voulu, aurait-elle pu le faire? C'est une question parce que vous savez que la constitution libérienne est l'une des plus anciennes du continent. C'est une constitution un peu copiée sur le modèle américain qui est difficile à manipuler. Mais dans le même temps, moi, la seule chose importante que je reprocherais à Shirley, c'est le passage de son premier à son second mandat. Il y a eu cette guerre civile dans le pays. Une commission nationale de réconciliation avait été créée. Et une des recommandations de cette commission avait été de demander à Mme Shirley de ne pas se présenter. Sur la base du soutien qu'elle aurait apporté à Charles Taylor, car Charles Taylor était un chef de guerre. Elle n'a pas écouté. Et ça, de mon point de vue, c'était vraiment un mauvais message parce que les leaders politiques doivent quand même respecter les décisions de certaines institutions, surtout pour un pays comme le Libéria qui sortait d'une guerre civile. Bon, maintenant, cela est derrière nous. Gardons d'elle quand même l'image de quelqu'un, de la première femme qui a géré un pays, qui a fait avancer la cause. Donc, nous prions tous pour que cette élection se passe dans d'excellentes conditions, que la transition soit parfaite pour que maintenant, en tout cas en Afrique de l'Ouest, on puisse dire que les pays peuvent sortir de la crise, que donc seule la démocratie peut aider les pays à avancer et que les Libéria pourraient être, dans ce cas, cité un exemple.
Ibrahima Kane de l'ONG panafricaine Open Society Foundations à Dakar.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce mardi à 18h, temps universel sur VOA Afrique. Élection au Libéria. 12 ans après, quel bilan pour Ellen Johnson Sirleaf et quel défi pour le nouveau président dans ce pays encore très pauvre. Pour participer et témoigner, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
En Centrafrique, quatre groupes armés qui ont toujours opéré dans le centre-est du pays ont signé hier un accord de cessation d'hostilité à Ipi. Il s'agit de l'UPC d'Ali Darassa, du FPRC d'Abdoulaye Hissène, du MPC d'Al-Khatim et une nouvelle branche d'Anti-Balaka, la RDR. Félix Yepassi Zembrou, adjoint à Bangui. Bienvenue Marina Mouluniato du réseau des journalistes des droits de l'homme.
Exactement, les quatre groupes armés, à savoir le FPRC, l'autre aile de FPRC dirigé par Abdoulaye Hissène, le MPC de Al-Khatim, UPC de Ali Darassa et RDR, une autre aile des Anti-Balaka. Ils ont signé l'accord, c'était hier dans la matinée, dans la ville de Ipi, où la présence d'Abdoulaye Hissène est signalée depuis plus d'une semaine déjà.
Que dit cet accord?
Ce qui a été dit, ils vont commencer d'abord le démantèlement des barrières qui ont été érigées par les groupes armés sur la axe Ipi-Bria, y compris les axes qui mènent dans les villages qui entourent la ville de Ipi et dans le centre du pays en général. Et puis, ils vont discuter d'abord avec les groupes armés afin de démanteler ces barrières-là pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Et aussi, Abdoulaye Hissène a montré sa bonne volonté d'œuvrer à partir de maintenant pour la paix et le développement.
Et cet accord est-il effectif sur le terrain?
Puisqu'ils ont signé l'accord seulement hier, c'est maintenant qu'ils vont commencer à mettre en application cet accord. La preuve en est que ce matin, j'ai eu Abdoulaye Hissène au téléphone qui m'a fait savoir qu'ils vont commencer l'opération de démantèlement des barrières ce matin. Donc, attendons de voir dans 2 ou 3 jours pour voir si l'accord est vraiment effectif.
Et comment a réagi la population après la signature de cet accord?
Auparavant, lorsqu'Abdoulaye Hissène était arrivé dans la ville, la population était en débandade, tout le monde était inquiet, mais après la signature, depuis qu'ils ont constaté plus d'une semaine qu'il est là, il y a toujours le calme qui règne dans la ville et tout et tout. La confiance qu'il a pu placer envers la population, c'est le pardon qu'il leur a demandé pour leur montrer que l'heure n'est plus pour le moment au conflit, à la guerre. C'est le temps de faire le pardon, de se réconcilier et autres. Mais depuis plus d'une semaine, je vous rappelle que la ville de Ipi est calme malgré la présence d'Abdoulaye Hissène et ses hommes. La population aussi attend de voir la suite de cet accord.
Qu'en sera-t-il pour les autres villes de la région du centre-est de la République centrafricaine?
Pour les 4 groupes qui ont signé cet accord, leur objectif n'est pas de rester seulement dans le centre du pays. Donc, ils veulent d'abord rétablir la paix au centre du pays, précisément à Ipi, là c'est Ipi et les villages environnants. Et puis, ils vont s'étendre dans la Waka et les autres régions où la présence des hommes en armes est signalée.
Bienvenue Marina Mouniato du réseau des journalistes des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Human Rights Watch incrimine une fois de plus Kigali dans son dernier rapport intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda ». Cette fois-ci, cette ONG accuse l'armée du Rwanda d'arrêter illégalement et torturer des détenus en recourant à des passages à tabac, des asphyxies, des simulacres d'exécution et des décharges électriques. Human Rights Watch a documenté 104 cas. Morgan Grieck a joint Ida Soy, directrice pour l'Afrique centrale, à Human Rights Watch.
Les personnes qui ont été ciblées étaient souvent accusées d'être membres, de voir collaborer avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, un groupe armé majoritairement Hutu rwandais basé dans l'est de la RDC Congo. D'autres ont été accusés d'avoir collaboré avec le Congrès national rwandais, le RNC, un groupe d'opposition en exil, et encore d'autres ont été accusés d'avoir collaboré avec Victoire Ingabire, qui est président des Forces démocratiques unifiées, les FDU Inkingi, un parti de l'opposition interdit au Rwanda.
Alors, face à vos accusations, que répond le gouvernement?
Nous avons à plusieurs reprises écrit au gouvernement rwandais demandant de réponse à nos recherches. Malheureusement, on n'a pas reçu de réponse. Cependant, le gouvernement a affirmé publiquement que, selon eux, la détention non officielle n'existe pas au Rwanda.
L'objectif des tortures, c'est notamment de faire signer de fausses déclarations, c'est ça?
Oui, et souvent, les détenus nous ont dit qu'à la fin, ils ont signé des fausses déclarations parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la torture ou ils pensaient qu'ils allaient mourir.
Alors, il s'agit d'un véritable système, hein, si on se fie à votre rapport, puisque vous dites que la justice ignore les plaintes des personnes qui disent avoir été détenues illégalement et torturées.
Les détenus étaient d'abord dans ces centres de détention illégales non officiels et c'est là où ils ont été torturés. Et des fois, par la suite, ils ont été transférés à la justice et aux centres de détention officiels. Et souvent, quand ils sont arrivés, ils ont reçu des instructions de ne pas parler de ce qui s'est passé avant. Mais malgré ça, des fois, des détenus ont pris le courage de dénoncer le maltraitement, la torture qu'ils ont subi devant des procureurs et des juges quand le procès a commencé. Mais dans tous les cas que nous avons documentés, les juges et les procureurs ont ignoré ces plaintes et il n'y avait aucune enquête.
Et vous dites également, il me semble, hein, dans le rapport, que les autorités rwandaises vont chercher ces personnes jusqu'en RDC ou même au Burundi.
La plupart ont été arrêtées au Rwanda, mais il y avait des cas de personnes qui ont été arrêtées d'abord au Congo ou au Burundi et puis transférées au Rwanda où ils étaient mis dans ces centres de détention militaire.
Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Nous restons dans les Grands Lacs pour parler de la Journée mondiale de la santé mentale. Dans le Nord Kivu, l'unique structure sanitaire spécialisée fonctionne difficilement sans même une ambulance. Traumatisés, stressés ou encore drogués, chaque mois environ 150 nouveaux cas sont enregistrés. Ils sont tous accueillis dans un hôpital géré par l'Église catholique où l'on retrouve le seul médecin psychiatre de toute la province. Charlie Kasereka vous promène dans le quartier de l'ouest de la ville de Goma, le seul refuge pour tous les patients souffrant de maladies mentales.
Ici, en moyenne, 15 à 25 nouveaux cas sont enregistrés chaque semaine et ces patients viennent souvent des territoires lointains, dans des villages où les conflits font encore des victimes, mais depuis plus de 20 ans maintenant. Jacob Kazadi est le directeur de ce centre. Il essaie de nous expliquer. Dans les pavillons où sont hospitalisés les cas les plus difficiles, nous retrouvons Nastasie, la trentaine, mère de 4 enfants, avec beaucoup de difficultés pour s'exprimer. Elle essaie tout de même de nous expliquer comment elle est arrivée ici.
Ce qui a fait que je puisse tomber malade, j'étais au niveau de l'école où je travaillais. Moi, on ne m'avait pas donné assez crédit. Moi, je m'étais demandé pourquoi moi, c'est moi toujours que vous faites des mal comme ça. Et pourtant, nous sommes tous les enseignants. J'ai commencé à penser beaucoup et c'est ce qui a fait à ce que j'arrive ici à l'hôpital de la santé mentale.
La bonne santé en milieu de travail, c'est le thème choisi cette année par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les nombreuses croyances qui existent dans la région font que la société regarde les malades mentaux avec mépris. Par ignorance, certains malades sont dirigés vers les chambres de prière, au merci des pasteurs ou chez les tradis praticiens, ce qui ne facilite pas les spécialistes qui reçoivent les patients trop tard au stade avancé de la maladie. Docteur Polepole est le seul spécialiste psychiatre de la région très sollicité. Dans les centres, certains sont même abandonnés par les membres de leur famille quand la charge devient trop lourde. Le directeur Kazadi nous en parle ici.
Et c'est la fin de cette édition. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. Don Itzki à la console. Présentation Eric Manila Kiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous retrouve à 19h30, temps universel, pour une autre édition du Monde aujourd'hui. À tout à l'heure.